Octobre. Chapitre 13. Jeanne. Jeanne arriva au cimetière à la même heure que les autres jours. C'était un rendez-vous auquel elle tenait à ne pas être en retard. Le matin, elle s'était rendue chez la coiffeuse pour entretenir ses pointes. Elle avait de longs cheveux qu'elle rassemblait en chignon pour sortir. Une fois par saison, lorsque la lune était en phase croissante, elle faisait couper quelques centimètres pour les garder vigoureux. Mireille, qui la coiffait depuis plus de 20 ans, lui avait demandé des nouvelles de Pierre, s'inquiétant de ne l'avoir vu depuis longtemps. Comme chaque fois que cette question venait transpercer sa poitrine, Jeanne n'avait pas réussi à dire qu'il était mort. « Je l'ai perdu », avait-elle articulé, parce que c'était exactement ce qu'elle ressentait. Le banc près de la tombe de Pierre était occupé. Une femme y était assise, le dos droit, le regard posé sur le vide. Jeanne n'obtint pas de réponse à son salut, mais ne s'en formalisa pas. Pierre l'attendait. Elle posa sa main sur sa photo, la caressa, puis se pencha à son oreille pour murmurer « Je te cherche partout, mon amour. Dans les draps défaits, dans la vapeur de la douche, dans le miroir, dans le rideau qui bouge. Je te cherche dans le regard de Boudine, dans le bruit des pas dans l'escalier, dans tes chemises pendues au cintre. Je te cherche dans mes souvenirs, dans un programme télé, dans une chanson, dans une voix qui résonne. Je te cherche dans le souffle du vent, dans le fracas des éclairs, dans la brûlure du soleil. Je te cherche dans ton flacon de parfum, dans ton tube de dentifrice entamé, dans ta liste de courses inachevées, dans le répondeur de ton téléphone, dans la vidéo de nos dernières vacances, dans les photos que je n'ai jamais classées. Je te cherche au coin des rues, au passage piéton et dans les parcs, à l'ombre des arbres, aux terrasses des cafés, dans la file d'attente de l'épicerie. Je te cherche quand le téléphone sonne, quand on frappe à la porte, quand j'ouvre la boîte aux lettres. Je te cherche à minuit 3, à 7h34, à midi, à 17h17, à 21h06. Je te cherche dans mon dos, dans mon cou, sous mes mains, contre mon ventre. Je te cherche partout et je ne te trouve pas. Je t'ai perdu, mon amour. Jeanne essuya ses joues et se tourna vers le banc. La femme avait disparu. Elle ôta les feuilles mortes des plantes, arrosa celles qui en avaient besoin, nettoya les plaques et finit par s'asseoir. Je t'avais promis de trouver une solution pour l'appartement. J'ai tenu parole. Je ne suis pas sûre que tu validerais l'idée, mais j'ai beaucoup réfléchi et je n'ai pas le choix. J'ai mis la deuxième chambre en location. Je ne couds plus, je n'en ai plus l'envie. J'ai rangé tout le matériel à la cave et Victor m'a aidé à installer un lit et une commode. La locataire s'appelle Iris. Elle est auxiliaire de vie et me paraît sérieuse. Elle arrive ce soir. Jeanne se tut un instant, les yeux fixés sur la photo de son époux. Il ne répondit pas, elle poursuivit. Je ne suis pas totalement sereine. Je n'ai jamais partagé ma vie qu'avec toi. Victor m'a dit que ce serait une bonne chose que je me sentirais moins seule. Je ne me sens pas seule. Je me sens sans toi. Elle s'interrompit encore, cette fois pour ravaler les larmes qui menaçaient de jaillir. Elle garda le reste de ses considérations pour elle et enchaîna avec les potins qu'elle avait recueillis auprès de Mireille. Pierre en était aussi friand qu'elle. C'était devenu un rituel. Il ne rentrait jamais du salon de coiffure, où il se rendait plus souvent que Jeanne, sans une mise à jour des commérages du quartier. Le nouvel amoureux de Madame Minot, le scandale de Monsieur Schmitt ou les dernières frasques des enfants Liron les faisaient rire comme des sales gosses. Le ciel s'était assombri lorsque Jeanne quitta son mari en lui donnant rendez-vous le lendemain. Elle enroula son foulard autour de son cou, passa la laisse à Boudine et s'éloigna vers la sortie, les épaules plus basses qu'à l'accoutumée. Elle pesait lourd la culpabilité de ne pas lui avoir dit toute la vérité. Une nouvelle lettre l'attendait dans la boîte. Elle se hâta de regagner son appartement et décacheta l'enveloppe avant même d'ôter son imperméable. Printemps 1993. Après avoir vu Ghost au cinéma, Jeanne va chez le coiffeur pour avoir la coupe courte de Demi Moore. Elle a hésité pendant plusieurs semaines et s'est finalement décidée en se disant que les cheveux repoussaient. Elle n'en a pas parlé à Pierre, elle veut lui faire la surprise. Il l'a toujours connue avec ses longs cheveux bruns. Jeanne va rarement chez le coiffeur, elle n'en a pas d'attitré. Elle choisit un salon au hasard et tombe sur une coiffeuse qui affirme que la coupe de Demi Moore est à la mode du moment, qu'elle a l'habitude de la réaliser. Sur le chemin du retour, Jeanne se sent bien, légère. Elle se sent Demi Moore. Pierre est là quand elle rentre. Elle a l'impression d'être une adolescente, tiraillée entre l'impatience et l'appréhension des premières fois. Il est surpris. Il la dévisage, lui demande de tourner sur elle-même, allume la lumière pour mieux la voir. Il finit par lui dire qu'elle est sublime, que cela met en valeur sa mâchoire dessinée et son nez droit. « Tu sais à qui tu me fais penser ?» demande-t-il. Jeanne exulte. Elle sait qu'il va la comparer à Demi Moore, elle n'en a aucun doute, mais elle joue le jeu et secoue la tête. Il affiche un sourire ému. Le sourire de celui qui fait un merveilleux compliment, et il répond « À Mireille Mathieu ». Jeanne avait oublié cette anecdote. Elle se surprit à rire en y repensant, avant de prendre conscience qu'elle devait s'asseoir. Ses jambes menaçaient de se dérober. L'émotion était aussi intense que pour la première lettre, peut-être même davantage. Elle avait espéré cette deuxième lettre autant qu'elle l'avait redoutée. Elle ne comportait aucun indice quant à son expéditeur. Mais pour l'heure, ce n'était pas le plus important. Durant quelques secondes, Jeanne avait été immergée dans le monde qui n'existait plus.